Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant Jésus-Christ en nous par le Saint-Esprit. Nous arrivons à l'étude numéro 15, qui est la suite de l'étude numéro 14. Cependant, la plupart des personnes qui réfléchissent sur elles-mêmes en restant à cette certitude que je suis, parce que je suis conscient, je pense, donc je suis. Je n'ai besoin que de mon propre moi pour penser et pour être. Donc, des gens peuvent en arriver à la situation suivante. Conséquent avec leur isolement, ils vont jusqu'au mépris et à la négation de tout autre être vivant. Son caractère mortifère se révèle en ce que ceux qui vont au bout de leur raisonnement sont conduits à nier leur existence personnelle. Toute réalité devient donc illusoire. Les plus positifs de ces subtils penseurs gardent au moins conscience du caractère maladif et mortel de toute leur situation. Voyez-vous, quand la conscience emprunte le chemin de la guérison, elle reconnaît que l'origine de son être n'est pas dans le moi solitaire, mais dans une réalité englobante qui garantit l'unité du vivant. L'être possède une origine qui fait l'unité de sa vie, de ses pensées et de ses actions. La prise de conscience d'un petit enfant dépasse les limites de son corps. Il en est de même chez les personnes qui arrivent à penser globalement, à regarder infiniment plus loin que ce que le corps et les forces d'un seul individu pourraient atteindre. En définitive, la conscience ne saurait être que globale, posséder une vision cosmique tournée vers l'ensemble et la profondeur du monde. En fin de compte, il s'agit de la conscience de Dieu. Cette conscience veut tout embrasser, tout sonder. Elle ne saurait se limiter à ce que je suis en tant qu'individu, à ce que je fais dans les limites de mon individualité. La conscience me contraint, me pousse à sonder, à m'intéresser au monde des étoiles comme à celui de la terre, dans toute sa profondeur et son étendue. La conscience, elle m'oblige à ce qui m'est impossible, avoir, par exemple, une vision d'ensemble de l'histoire et de la vie de l'esprit, et de reconnaître leur cohérence interne. La conscience oriente le travail de l'esprit vers l'infini. Elle contraint à la totalité, à l'universalité. Elle réclame le tout, une appréhension, une compréhension d'ensemble du vivant. C'est en cela qu'elle prouve qu'elle est bien vivante. Elle s'oppose évidemment à tout isolement. La conscience de notre esprit scrute donc l'infini. Elle contemple l'origine de notre création, le Dieu vivant. Elle nous dit que Dieu seul est la véritable conscience qui embrasse l'ensemble du vivant. La vie de la communauté ne réside que en Dieu. Lui seul est l'Esprit qui englobe et qui unit toutes choses. Car il est amour. Il est l'amour qui trouve sa joie dans des relations désintéressées, harmonieuses et réciproques entre tous les êtres vivants. Lui seul est la puissance qui est capable de s'opposer à la mort destructrice. Dieu crée une vie nouvelle et unifiée. Les esprits limités et bornés que nous sommes ne trouveront la plénitude de la joie que dans son amour. Chers amis, un homme en bonne santé regarde le monde avec amour. Il agit dans le monde avec amour, dans sa conscience, libéré de son individualisme. Il se tourne vers Dieu. Un homme en bonne santé montre de l'amour pour tout. Il n'est plus dans la situation de celui qui se préoccupe d'abord et principalement que de lui-même. Non, il fait partie de la cohésion du tout. Il sait qu'il est placé par l'esprit du tout dans cette cohésion. Bien sûr, il reste conscient qu'il doit vivre, mais sa vie ne réside pas uniquement en lui-même. Elle s'insère dans la création et la nouvelle création du tout. Il reçoit la vocation de participer à l'être du tout et à son devenir. En fin de compte, sa vie appartient à l'esprit créateur qui ne cesse de faire du neuf et dont la puissance d'amour et de vie est la source de vie. On peut dire sa certitude de vivre est donc bien différente de celle de celui qui s'illusionne de manière maladive. Sa vie et son être reposent sur la vie de l'esprit qui embrasse et crée toute chose, qui est en faveur de tous, donc en faveur de tous, la parole, vous l'avez compris, qui conçoit et façonne toute chose. Et quand j'ai dit la parole, c'est Dieu. Conscient de ses limites et de sa finalitude ou de sa finitude, il ne peut qu'affirmer, étant fort de sa vocation, « Je peux penser, donc je suis. Je vis, car je suis vivant. Oui, j'ai été créé et appelé par la conscience qui scrute toutes choses et qui m'inclut en elle et dans tout ce qu'elle fait. Il trouve donc sa vie dans ce regard qui en Dieu embrasse et pénètre tout, tout dans le don d'amour de Dieu en faveur du tout. Celui qui retrouve la santé connaît le tout et vit pour le tout. Il remet son petit moi impuissant, avec la vocation qu'il a reçue, au service de l'œuvre grandiose de la conscience globale. Son moi n'a plus que cette raison d'être et de vivre, c'est-à-dire de porter du fruit en faveur du tout. Mais avant d'en arriver à cette santé et à cette force de vie, il nous faut reconnaître la cause et les effets de la maladie. Nous, les hommes d'aujourd'hui, nous souffrons tous de solitude. Nous pensons toujours à nous-mêmes. Nous ne savons penser qu'à partir de nous-mêmes. Nous nous tournons toujours vers nous-mêmes. Nous croyons qu'il nous faut partout nous battre pour nous-mêmes et pour préserver notre petite existence. Nous sommes malades. Nous sommes mourants, malades au plus profond de nous-mêmes. Notre vie n'est qu'une mort. Nous devons reconnaître notre maladie si nous voulons en être guéris. Un organe attire l'attention quand il est malade. Nous savons que notre cœur ne va pas bien quand lors d'une ascension, en montagne, je veux bien dire, ou quand nous montons les escaliers, nous entendons les battements de notre cœur dans le cou, ou quand en faisant de la bicyclette ou en ramant très fort, nous sentons donc l'augmentation de nos pulsations cardiaques. Quelque chose ne fonctionne plus correctement. Et quand nous ressentons une douleur dans les poumons, quand nous crachons du sang, quand nos poumons se font remarquer pour que nous en prenions soin, il est évident qu'ils sont malades. C'est exactement la même chose pour l'individu au sein de la société humaine. Quand un individu se fait remarquer, quand il attire l'attention des autres sur lui-même, quand il se met en avant pour valoriser son moi, il est évident qu'il est malade. L'hygiène d'une vie en bonne santé est, pour lui et par sa faute, en danger de mort. C'est très net chez les personnes qui sont dépressives ou psychiquement malades. Nous en connaissons tous. Qui sait si nous n'en faisons pas un peu partie? Nous connaissons tous cet état nerveux maladif par lequel nous essayons, comme les autres, d'attirer l'attention de notre entourage sur notre personne par des remarques déplacées. Quand cela ne marche pas, nous tentons de nous faire remarquer par des plaisanteries ou des blagues. Si cela échoue, eh bien, nous contraignons les gens en proférant des grossièretés à se soucier enfin de nous, ne serait-ce que en les mettant en colère, pourquoi pas. Si cela se solde encore par un échec, on en arrive au paroxysme d'une hystérie personnelle. Elle peut se manifester par des tremblements, des pleurs, une perte de connaissance, voire même par des tentatives de suicide réelles ou simulées qui forcent l'entourage, qu'il le veuille ou non, à s'intéresser au moi de l'individu malade. Quand ce moi maladif n'arrive plus à capter l'attention des autres par ses efforts ou ses prouesses, il adopte alors un comportement bizarre, parfois inquiétant, franchement morbide. Le moi reste donc malade tant qu'il met en avant son petit ego, tant que son sentiment persistant d'infériorité le rend irritable, tant qu'il exige d'être traité différemment, considéré différemment. Pourquoi? Mais parce qu'il conviendrait dans la vie du tout. C'est ça. Donc cette maladie, elle est, à mon avis, mortelle. Elle anticipe la putréfaction. En s'arrachant volontairement du tout, ça veut dire un grand T-O-U-T, eh bien, elle s'apparente à un processus de décomposition. Elle s'insinue partout en détruisant les conditions d'une vie saine. Voyez-vous, la maladie du monde, c'est cet individualisme persistant du moi. Elle s'étend à tous les domaines dans lesquels le moi exerce son activité. Quand l'individu ne fait plus sienne la misère du monde, quand il se focalise sur ses problèmes personnels, quand il ne se soucie que de lui-même, sans penser surtout aux autres, quand sa propre existence passe avant tout le reste, quand finalement, il ne recherche que son épanouissement et son bonheur, alors il ne sait plus reconnaître ni mesurer les besoins des autres et du monde. Pire encore, il les multiplie et les aggrave. Alors il devient un dangereux parasite qui menace le tout. Un individu qui vit de cette manière se coupe de l'ensemble de la société. Il n'a plus conscience de l'unité du réel. Il s'est séparé de la vie globale et il court à sa ruine. Et sa mort même restera marquée par son individualisme. À son insu, elle répandra encore des germes mortels d'infection. Quand nous parlons du vivre ensemble, nous devrions commencer par évoquer la joie. Oui, la joie. L'individu est inséparable de la joie, de la conscience d'appartenir à un vaste ensemble. Car l'amour de l'esprit créateur de vie est de la joie. Mais, ne nous leurrons pas trop. Dans la situation actuelle et concrète, quand un sentiment d'unité apparaît dans une expérience communautaire, il ne découle pas d'abord de la joie de vivre ensemble. C'est une réponse apportée à la misère du monde, oui, à son besoin de solidarité. Actuellement, la plupart des gens n'ont plus de joie dans leur vie. Dans notre vie, notre joie de vivre, elle disparaît totalement. La grande majorité des travailleurs de nos jours est privée de tout accès à la joie de vivre. Elle n'a plus de possibilité concrète de vivre vraiment en communauté. Ce qui unit les humains aujourd'hui, c'est la misère du monde. La joie n'est plus qu'un manque, un espoir, une croyance joyeuse en un avenir meilleur. Sans ce joyeux courage, il n'y aura plus, absolument plus d'entraide. La réalité de l'entraide prouve que, envers et contre tout, une foi en une guérison future continue donc d'exister. Quand un doigt a mal, eh bien tout le corps emporte le souci. Tout le corps est entraîné dans une sympathie active. Le système nerveux, en envoyant un message au centre de la conscience, appelle à l'aide la circulation sanguine. Des équipes de secours efficaces et dévouées viennent à la rescousse de la vie. Elles arrivent de partout sur le lieu du danger. Et quand un membre du corps souffre, eh bien tous les membres souffrent avec lui. Des processus instinctifs sont donc à l'origine de ce comportement. Ils trouvent leur origine dans une conscience d'unité que nous nommons l'âme du corps ou l'esprit de l'homme. L'esprit est au service de la préservation de la santé et des capacités du corps. Un même courage plein d'énergie, un même engagement joyeux et rempli d'espérance se retrouve, oui, se retrouve dans la vie du monde comme chez l'être humain. Nous croyons qu'un membre du corps entre dans un état maladif, démoniaque et mortel quand il se soustrait au dévouement mutuel. Il n'obéit plus à l'âme et à l'esprit qui unifient et régissent l'ensemble du corps. Il ne suit plus que sa volonté propre, qui est privée, on peut dire, qui prive l'âme et l'esprit. Et c'est particulièrement évident dans le domaine de la sexualité, quand elle se désolidarise de l'âme pour mener sa propre vie malade d'abusés et d'abuseurs, on peut aussi dire, et de ce fait quand même diabolique. Mais nous retrouvons la même puissance démoniaque quand une personne suit uniquement sa volonté propre, celle de son moi égoïste, qui est coupé du tout et de l'esprit. Ce pouvoir démoniaque de l'individualisme qui renie carrément l'existence d'un tout domine aujourd'hui l'ensemble de la vie personnelle et publique. Même les associations ou les organisations qui se mettent au service de la politique, de la religion ou d'objectifs sociaux sont profondément dominés par un esprit égoïste et démoniaque. Les associations qui représentent consciemment ou inconsciemment une communauté d'intérêts, en étant centrées sur elles-mêmes, restent des groupements démoniaques, des organisations qui sont absolument sans âme et sans esprit. Elles agissent de manière autonome, selon les lois propres aux revendications du moi. Elles se sont détournées totalement de l'esprit de vie, cet esprit de vie qui est la source du dévouement mutuel et d'une véritable vie commune. Alors il leur manque une communion à l'âme unifiante qui est le moteur du tout, qui vit pour le tout. Elles se sont donc rendues étrangères à l'esprit qui mènera à l'unité, à la communion avec le Très-Haut, avec Dieu. Elles se soustraient à la puissance créatrice qui fait toutes choses nouvelles, qui redonne une unité à ce qui est mort et ruiné. Il leur manque donc le mouvement, le débordement de communion qui appartient à la vie. Il leur manque surtout l'amour, ce joyeux don de soi-même à ce qui vit encore, même dans la mort. Seule la force de l'esprit d'amour qui embrasse toutes choses pourrait les libérer de leur individualisme égoïste, de leur solitude volontaire, pour les conduire à l'unité du vivant. Nous sommes, chers amis, malades, on peut bien le dire, en tant qu'individus, en tant que groupe, en tant même de citoyens d'un État, et même en tant que population mondiale. Il n'y a qu'une solution pour guérir de cette maladie mortelle de notre temps, c'est de sortir de notre individualisme et choisir la voie de la communauté dans laquelle l'unique esprit donne à tous un seul cœur et une seule âme. De nos jours, il n'existe pas encore de telle communauté mondiale. Il n'y a pas de communauté capable d'unir tous les êtres humains. Pourtant, au sein de l'humanité divisée et on peut dire moribonde, de ces gens solitaires qui s'opposent les uns aux autres, là vit et travaille un organisme caché. Il donne naissance à une vie totalement nouvelle. Par Dieu, les hommes sont interdépendants. Il existe une unité du corps formée par l'humanité parce qu'un seul et unique esprit est la conscience de ce corps. Pour terminer cette étude aujourd'hui, chers amis, pour l'instant, tant que nous ne saisissons pas le caractère extrêmement désespéré de notre misère dans notre condition présente et générale, nous ne le voyons pas, nous ne remarquons rien du travail caché de Dieu. Il nous faut commencer par reconnaître la maladie mortelle du corps de l'humanité. Il faut ensuite que notre plus intense préoccupation devienne la misère du monde, l'individualisme mortifère de tous ceux qui devraient se solidariser avec cette misère, ne faire plus qu'une ou qu'un avec elle. Après seulement, eh bien, nous pourrons nous préoccuper du mystère de l'Église. Pour aujourd'hui, nous terminons et j'ai reçu quelque chose dans le cœur de vous transmettre pour vous encourager ainsi que pour votre propre édification. Buvez de l'eau que Jésus-Christ vous donnera et vous n'aurez plus soif. C'est aux eaux qui vraiment restaurent l'âme qu'il veut vous conduire. Son désir, c'est de vous donner une eau vive. Heureux donc ceux qui ont faim et soif de la justice. Oui, comme un cerf brame après les eaux courantes, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Il s'agit ici de la soif qui toujours est étanchée. Invoquez donc le Seigneur souvent. Mais attention, il ne s'agit pas tant d'implorer le Seigneur que de réclamer son aide comme une chose à vous accorder, vous y avez droit en raison même de son amitié. Réclamez-la donc hardiment et ayez la foi avec insistance, réclamez, car tout est à vous. Aide, c'est l'aide que le Seigneur veut vous donner, car elle vous appartient déjà, elle est vôtre, parce qu'elle est contenue dans le don plénier qu'il vous a fait de lui-même, le don offert à tous, le don sans pareil et miraculeux. Donc réclamez-le et acceptez-le. Laissez-le opérer en vous et par vous. Oui, Dieu vous aime. Alléluia. Maintenant, chers amis, nous allons prier ensemble. Prions. Ta bonté veille sur nous, ô Dieu. Mais pourquoi nos cœurs ne veille-t-il pas dans la prière et les actions de grâce? Pourquoi sommes-nous si peu touchés de tes bienfaits? Pourquoi donnons-nous toute notre attention aux choses de cette vie et sommes-nous si peu occupés de notre salut? C'est que nous n'avons pas encore senti l'influence de ton Saint-Esprit dans nos âmes, c'est qu'elles ne sont encore ni converties, ni régénérées. Ô Seigneur, viens donc à nous, puisque nous n'avons pas la force d'aller à toi. Fais-nous naître de nouveau, c'est-à-dire fais pénétrer dans nos âmes un rayon de ta divine lumière qui nous fasse voir toute la corruption de nos cœurs, tous nos mauvais penchants, et puisse nous convaincre que nous sommes condamnés devant toi. Que cette même lumière nous dirige vers Jésus, vers le Fils unique de Dieu qui est venu sur la terre vivre, souffrir et mourir afin que le monde fût sauvé par lui. Si nous acceptons le salut qu'il nous présente, si nous sentons que c'est véritablement lui qui a fait l'expiation de nos péchés, alors nous entrerons dans une vie nouvelle et nous marcherons selon l'Esprit Saint, ayant crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Que cette grâce, ô Dieu, soit accordée à chacun de nous, afin que nous cherchions le royaume des cieux et que nos âmes soient sauvées pour l'éternité. Bénis tes faibles créatures, bénis notre patrie, nos amis et nos parents. Ne nous abandonne pas pendant cette journée et daigne élever nos cœurs et nos pensées vers toi, Seigneur, et vers le Sauveur adorable, au nom duquel nous t'invoquons en disant « Merci Seigneur ». Amen. Amen. Chers amis, vous savez que Dieu aime tous ceux qui ont eu l'humilité et le courage d'accepter un jour la main tendue de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, sachant que sans lui, ils étaient perdus. Eh bien, il vous aime. Et je vous dirai la même chose, je vous aime tendrement et je vous embrasse tous. Soyez bénis et à demain matin pour la suite de cette série. Au revoir, mes très chers amis.